Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. En 1935, à l'occasion d'un congrès, Adolf Hitler, dans sa mégalomanie, expliquait les liens qui l'unissaient au parti nazi, au fameux NSDAP. Je le cite, « Le Führer est le parti et le parti est le Führer. Juste comme je me sens moi-même une partie seulement du parti nazi, le parti nazi se sent lui-même seulement comme une partie de moi. » Fin de citation. Dans la structure du pouvoir national socialiste, Hitler, nous le savons, était le centre de tout. Mais même s'il fut le centre de tout, Hitler ne pouvait bien évidemment pas se passer de collaborateurs, d'hommes, mais aussi de femmes, qui, plus ou moins proches, lui ont permis d'accéder au pouvoir, puis de l'exercer. Storia Voce vous propose aujourd'hui de s'intéresser à cette galaxie, au sens propre, qui tournait autour de la folie hitlérienne. Qui sont ces hommes, tout d'abord? Comment et quand Hitler les a-t-il recrutés? Quelles furent leurs marges de manœuvre? Travaillèrent-ils sous le contrôle strict du Führer ou au contraire bénéficiaient-ils d'une autonomie? Hitler avait-il de vrais amis ou au contraire des amitiés à géométrie variable? A contrario, était-ce des amis ou des hommes simplement assoiffés de pouvoir souhaitant s'approcher de son centre? Je vous propose de partir à leur rencontre dès les premières années du mouvement et donc dès le putsch de Munich en 1923 jusqu'à la mort d'Hitler en avril 1945. Jean-Paul Blette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous disions hors micro qu'il s'agissait entre nous d'une vieille amitié radiophonique.
Bien sûr.
Nous avons enregistré plusieurs émissions ensemble. Vous êtes historien spécialiste de l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Et vous avez publié, il y a moins d'un an, une étude consacrée à l'entourage d'Hitler, un livre intitulé sobrement « Les hommes d'Hitler » paru aux éditions Perrin. Alors vous commencez votre ouvrage par une longue introduction en expliquant qu'absolument tout tourne autour d'Hitler, mais l'idolâtrie dont il fut l'objet n'explique pas tout et encore moins l'état hitlérien.
Oui, il est évident que, comme vous venez de le dire, Hitler est l'objet d'un culte, donc idolâtrie, c'est le mot que vous avez employé, et le mot est tout à fait juste. Mais il va de soi que dans une histoire politique, et c'est une histoire politique qui, selon le terme que l'on prend, commence en 1920 ou commence en 1933, c'est-à-dire en tout cas une longue durée, on ne peut pas tout ramener à des facteurs individuels. Il y a aussi des facteurs politiques dont Hitler a bénéficié, même si je ne crois pas qu'il, contrairement à ce qui s'écrit parfois, qu'il faille tout expliquer par le traité de Versailles, le Friedensdiktat. Il n'empêche que Versailles est un des éléments qui ont favorisé la montée d'Hitler. Mais peut-être plus encore, je crois plus encore, la crise de 1929. Parce que si on s'en tenait comme seule explication à la tâche sur l'honneur national, cette tâche, elle existe depuis 1919. Et il faut attendre la grande crise de 1929 pour que le parti décolle. Il ne faut jamais oublier que le NSDAP ne fait que 2,8% des suffrages aux élections de 1928, les dernières avant la crise. Donc, à ce moment-là, c'est un petit parti parmi d'autres. Rien ne semble appeler aux destinées qui vont être les siennes. Et brusquement, aux élections qui ont eu 2 ans plus tard, en septembre 1930, eh bien, il bondit à un peu plus de 18% des suffrages. Donc, c'est une conséquence de la crise, qui s'est abattu très vite sur l'Allemagne, et qui s'est abattu très vite sur l'Allemagne en raison des liens très étroits qui unissaient l'Allemagne aux États-Unis depuis 1924.
Alors, il faut distinguer dans votre ouvrage, vous le dites dans votre introduction, justement ces différentes périodes. Les années 20 ne sont pas les années 30, qui ne sont pas les années 40.
Bien sûr.
Et est-ce qu'on peut parler d'un premier cercle? Vous dites qu'il y a plusieurs strates. Il y a un premier cercle, et dans ce premier cercle, il y a plusieurs strates. Il y a un noyau d'abord, munichois. Il y a des gens extérieurs à la Bavière, et il y a les néoconservateurs.
Oui. Alors, le noyau bavarois, munichois, est évidemment essentiel. On a là un groupe de fidèles qui beaucoup le resteront jusqu'à la fin. On pense notamment à Hesse, Rudolf Hesse, on pense à Rosenberg. Il y en a aussi qui, si je peux dire, ont mal tourné, parce que je pense à Strasser, je pense à Röhm, qui ont été des proches d'Hitler, qui ont appartenu à ce premier cercle dès l'époque de Munich, qui ont participé au putsch de Munich de novembre 1923, et puis qui vont être des victimes d'Hitler. C'est l'affaire, bien sûr, de la nuit des longs couteaux. En tout cas, ce premier cercle, si on met de côté les deux noms que je viens de citer, on peut encore ajouter un homme comme Frank, le futur Gauleiter du gouvernement général de Pologne. On peut ajouter à ce groupe Frick, qui sera le premier ministre intérieur du Troisième Reich, qu'il restera jusqu'en 43, c'est-à-dire qu'il aura 10 ans derrière lui dans cette fonction. Donc, voilà cette composante. Et puis, bien sûr, oui, j'allais oublier deux noms qui sont essentiels, c'est Göring et Himmler. Alors, à des niveaux différents, parce que Göring est tout de suite dans le premier cercle. Il a un passé glorieux, évidemment, c'est un des as de l'aviation allemande, et il réussit à s'introduire immédiatement dans ce premier cercle. Le second participe au putsch, c'est Heinrich Himmler, mais dans un rôle tout à fait subalterne, il n'est pas encore le personnage qu'il va devenir. Mais enfin, il est là. Alors, dans ce groupe, il y en a, évidemment, qui ne sont pas là, qui vont devenir des proches d'Hitler, des très proches. Je pense en premier lieu à Josef Goebbels, qui va arriver pas longtemps après, mais qui n'est pas du groupe munichois, et qui d'ailleurs a de très grosses réserves à l'égard de ce groupe. Bon, ça fait partie du tempérament propre à Goebbels, qui est de mépriser la plupart de ceux qui sont dans l'entourage d'Hitler. Non pas parce qu'ils sont dans l'entourage d'Hitler, mais parce que ils peuvent être des rivaux. Bon, ça c'est une première raison. La seconde raison, c'est qu'il les trouve très limités intellectuellement.
Alors, on va revenir précisément, parce que ce qu'il y a de vraiment très intéressant dans votre ouvrage, c'est que donc, nous allons y revenir, vous le séparez en plusieurs catégories, et vous faites un portrait psychologique à chaque fois de ces personnages. Mais je voudrais m'arrêter sur un point qui est absolument essentiel, c'est la relation même d'Hitler avec ces gens. C'est-à-dire que on pourrait concevoir que Hitler a, par exemple, quand il est au pouvoir, une relation globale avec ces gens qu'il réunit autour d'une table. Non, pas du tout, il préfère la relation bilatérale.
Tout à fait.
Et ce qui permet même de diviser, finalement, son entourage, de promettre à l'un, de faire croire à l'autre, etc., etc.
Oui, c'est une des techniques du pouvoir d'Hitler. Alors, il a toujours été, a toujours préféré cette relation bilatérale. On peut en avoir une confirmation dans le fait qu'à partir de 1937, le Conseil des ministres ne siégera plus. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, plus de Conseil des ministres, donc plus de relations collectives, mais exclusivement des relations bilatérales. Ce qu'il avait déjà commencé à faire, bien entendu, auparavant. C'est une technique de pouvoir parce qu'évidemment, comme vous le disiez, cela permet de diviser, ça permet d'empêcher que ne se forme une espèce de front, un éventuel front qui serait dirigé contre lui. C'est une hypothèse qu'il n'a jamais écartée, qui ne s'est jamais produit, il n'y a jamais eu de complot de ses proches contre lui. Mais il a imaginé que cela pouvait se faire, et donc, à partir du moment où il imaginait, un des moyens de l'éviter, c'était de partager les relations, et s'il l'estimait souhaitable, de favoriser les divisions.
Alors, il y a une expression que je retiens toujours dans votre introduction, dont on n'a pas forcément conscience quand on se lance dans l'étude de ce régime et de sa progression. Vous utilisez à l'égard du régime hitlérien une expression, même deux expressions qui semblent un peu paradoxales, celui de, précisément, de désordre organisé,
oui,
et celui de totalitarisme anarchique.
Oui. Ce qui va de pair, hein. Mais c'est la même idée qui est derrière, c'est que c'est pour Hitler un des moyens d'asseoir son autorité. Ajoutez à cela que Hitler, contrairement à d'autres chefs d'État, à d'autres souverains du passé, n'est pas un grand travailleur.
Vous dites qu'il n'a pas de méthode de travail.
Ah non,
en fait.
Ça c'est tout à fait très étrange et très caractéristique. Il n'a pas de méthode de travail. Et son emploi du temps va à l'encontre d'une méthode de travail. Parce que voilà quelqu'un qui se lève au mieux pour l'heure du déjeuner, c'est-à-dire qu'en fait il peut très bien conjuguer petit déjeuner et déjeuner. Donc il y a déjà toute la matinée qui a sauté. C'est tout de même important.
Et il travaille pas tard, il ne travaille pas tardivement pour autant.
Non plus. Il aime énormément le cinéma. Et aussi bien à Berlin qu'à Berchtesgaden, il se fait projeter des films. Donc sa soirée est occupée par ces projections. Et évidemment, ça ne favorise pas non plus la réflexion sur les sujets d'actualité. En d'autres termes, il ne consacre au travail que quelques heures dans la journée. C'est peu pour un chef d'État. Alors, une fois qu'on a dit cela, se pose évidemment le problème de l'autonomie de ses collaborateurs, de ses ministres. Elle est grande, mais elle est très surveillée. Il y a ces deux éléments. Et les deux éléments qui vont dans le sens de ces formules du désordre organisé, du totalitarisme anarchique. Hitler procède beaucoup par intuition, beaucoup plus que par le résultat d'un travail, comme on l'a dit, d'un travail
méthodologique,
ouais, absolument, mais par intuition. Grandes intuitions qui, souvent,
payent,
sont justes et payent, bien sûr. En tout cas, dans la première période, c'est évident. C'est évident. On peut presque dire qu'il fait un parcours sans faute dans cette première période, qui va jusqu'à la guerre et jusqu'à la campagne de France.
Est-ce qu'on peut dire que, en conséquence, c'est une sorte de polycratie ?
Oui, oui, bien sûr, et le terme est souvent employé, à juste titre, mais en voyant bien que les polycrates en question, eh bien, sont sous l'œil très vigilant d'Hitler. Parce que l'une des conséquences, si vous voulez, de la fois de ce régime très particulier, de ce totalitarisme hitlérien, et de cette méthode, entre guillemets, de l'intuition, c'est que il donne des directives. C'est aux autres, à ses collaborateurs, selon le domaine auquel ces directives s'appliquent, de les appliquer. Et ses collaborateurs emploient une expression qui est très, très éloquente, très parlante, c'est agir dans le sens du Führer. Et ça, on le voit, par exemple, dans le registre le plus affreux du régime, c'est-à-dire la Shoah, où il a donné un ordre
qui n'était pas écrit.
Qui n'était pas écrit, absolument. Et certes, les historiens le recherchent, mais j'ai tendance à penser qu'ils ne le trouveront jamais.
C'est la conférence de 26.
Oui, tout à fait. Donc, mais ceux qui ont reçu cette directive, cet ordre, savaient ce que signifiait cet ordre, et ils l'ont appliqué dans le sens du Führer. Himmler, puisque c'était lui qui était le premier architecte, avec Heydrich, évidemment, mais Heydrich n'avait pas le même accès à Hitler. Tandis qu'Himmler l'avait, comme chef de la SS. Donc, Himmler, périodiquement, rencontrait Hitler, mais périodiquement, ça veut dire qu'il pouvait y avoir plusieurs mois entre deux rencontres. Et au cours de ces rencontres, eh bien, il lui rapportait l'avancement du processus de la Shoah. Mais, entre-temps, Hitler n'était pas chaque jour sur ses dossiers.
Ouais. Alors, vous utilisez 6 catégories pour 23 portraits, et donc, comme le temps tourne, nous allons nous lancer dans ces catégories. Et la première catégorie, ce sont les idiots utiles.
Oui.
L'expression est de Lénine.
Bien sûr.
Et alors, c'est très intéressant parce que, là encore, on voit, j'utilisais le terme de galaxie, c'est-à-dire que chaque planète a sa place dans ce système. Et à sa raison d'être. Et là, nous avons un militaire, nous avons un politique et nous avons un banquier. Donc, ce sont des gens, à proprement parler, utiles pour l'accession au pouvoir.
Bien sûr. Et je dirais que celui qui a été le plus utile et qui, à mes yeux, mérite le plus cette appellation d'idiot utile,
c'est
Von Papen. Von Papen est vraiment l'archétype de ce personnage. Il a été victime de son arrogance. Il sentait évidemment toute la distance qu'il y avait entre lui et Hitler, et il supposait que on ne ferait qu'une bouchée de ce personnage, celui que Hindenburg appelait le caporal bohémien. Donc, on n'en ferait qu'une bouchée, et quand on aurait fait une bouchée, on s'en débarrasserait. Il avait cette vision il n'est pas le seul à l'avoir eu, bien sûr, mais assez caractéristique de certains milieux conservateurs, et qui n'avaient aucune compréhension des phénomènes de masse, qui certes étaient nouveaux dans l'histoire, mais enfin, ils n'avaient vraiment aucune compréhension, et ils n'ont pas vu venir qu'ils seraient débordés. Et pour ce qui est de Von Papen, c'est un destin, je dirais, lamentable. Lamentable parce que, donc, il méprisait Hitler, c'est certain. Probablement le détestait-il aussi. Mais, une fois qu'il a été débarqué de ses fonctions de vice-chancelier, c'est autour de la nuit des longs couteaux, il pourrait partir. Ce serait une fin, disons, honorable, entre guillemets. Mais non, il s'accroche. Et lorsqu'Hitler lui propose de le nommer ambassadeur à Vienne, il accepte. Alors certes, c'est un poste important, oui. Important par rapport à la perspective de l'Anschluss, évidemment. Mais tout de même, vice-chancelier du gouvernement du Reich, ensuite ambassadeur à Vienne, il y a tout de même plusieurs échelons qui sont descendus. Et ensuite, il terminera sa carrière comme ambassadeur à Ankara. Alors, je veux bien que la Turquie était un élément important de la géopolitique européenne de cette époque, comme l'est toujours, d'ailleurs, mais c'est tout de même encore une régression de plusieurs échelons. Et ce qui me fait dire que tout cela est assez lamentable, c'est qu'il a... Alors, bien sûr, il met en avant, comme on fait toujours dans ces cas-là, il a fait le don de sa personne à l'Allemagne, évidemment. En réalité, il y voyait son intérêt et il n'a jamais eu de relation avec la résistance. Alors que Chartres, lui, a eu des contacts avec la résistance et même, à la fin, a failli être exécuté. C'est un sort tout à fait différent. Ce sort ne menaçait absolument pas Von Papen. Hitler n'avait rien à lui reprocher.
Vous écrivez, il est, je vous cite, fort d'une bonne conscience à toute épreuve, il est le seul à sortir blanc comme neige, donc je parle de Von Papen, de sortir blanc comme neige de cet étonnant jeune massacre.
Oui, et ça va jusqu'à Nuremberg.
Oui.
Puisque
vous terminez bien évidemment à chaque fois par Nuremberg, oui. Et on voit, vous reprenez les quatre chefs d'accusation, et à chaque fois, en face de ces chefs d'accusation, vous voyez s'ils ont été retenus pour chacun de ces personnages.
Voilà, alors,
crime contre l'humanité, crime contre la paix.
Oui.
Et il y en a deux autres.
Alors ensuite, il y a la participation à une conspiration pour la prise du pouvoir,
oui,
n'est-ce
oui.
pas ? Alors, c'est un chef d'accusation qui vaut parfaitement pour Von Papen, mais il a été acquitté.
Oui,
il
oui.
a été acquitté. Ce qui explique d'ailleurs que Chartres, qui en avait fait beaucoup moins, l'a été aussi. Parce que, encore une fois...
On pouvait pas condamner Chartres et après avoir laissé aller finalement Von Papen.
C'était impossible. C'était impossible. Parce que Von Papen est vraiment le responsable de l'arrivée, le responsable ponctuel, je veux dire, de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Sans l'accord qui s'est noué entre les deux hommes, Hitler et Von Papen, au début de janvier 1933, il est probable qu'Hitler ne serait pas arrivé au pouvoir. Cet accord, qui avait une raison, on va dire subalterne, qui était l'hostilité au général von Schleicher, qu'Hindenburg, président de la République, avait appelé à former le gouvernement, Von Papen ressentait cette nomination comme un affront, et donc les deux hommes se sont ligués pour avoir la peau politique, dans un premier temps, du général von Schleicher, et après la peau réelle, puisque, mais là c'est seulement l'affaire de Hitler, von Schleicher sera une victime de la nuit des longs couteaux. Donc c'est cette hostilité commune qui les a rapprochés, qui les a amenés à conclure ce pacte, au terme duquel Hitler est arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933. Donc sa culpabilité, elle est évidente.
Alors, un banquier, un politique, il y a un militaire, c'est
von Blomberg.
On ne va pas rentrer dans le détail. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est de faire le lien précisément avec la partie consacrée aux militaires. Il y en a quatre. Et c'est extrêmement important, parce que là encore, on a l'idée d'une unité. Or, ce petit caporal qui tente le putsch en 1923, je ne vais pas dire qu'il fait sourire les militaires, mais les militaires le regardent de très haut.
Oh, certainement. Certainement. Ces officiers généraux qui ont été élevés dans l'esprit prussien ne peuvent considérer Hitler que comme un amateur. Ce qu'il est à ce moment-là, c'est indéniable. Par la suite, il se révélera être un chef de guerre, avec des succès flamboyants, mais aussi des échecs non moins flamboyants. Donc Hitler, il connaît ses sentiments, bien sûr. Et il va lui falloir conquérir ses milieux. Les autres, il les a éliminés progressivement. Les partis politiques n'existent plus, à part les ERP, bien entendu. Il a mis sous le boisseau les églises. Les syndicats, évidemment, c'est la même chose. C'est terminé. Mais il y a les militaires. Et là, évidemment, il ne peut pas démissionner l'ensemble du corps des officiers généraux. C'est pas possible. Donc, il doit faire avec. Alors, comment les conquérir ? Eh bien, il a un moyen qui va de soi, c'est qu'il a le projet de réarmer l'Allemagne. Et il va s'y mettre officiellement à partir de 1935. En réalité, ça a commencé avant. Bon, évidemment, un tel projet ne peut que convenir aux militaires. C'est une manière, d'abord, de contourner le fameux traité de Versailles, qui établissait la barre beaucoup moins haut, évidemment. Et puis, c'est peut-être le premier pas vers une guerre de revanche. Donc, il travaille à conquérir ces milieux avec des succès inégaux. Et on le voit bien d'ailleurs dans ce premier complot militaire, beaucoup moins connu que celui de 1944, évidemment. Celui de 1944, tout le monde connaît le 20 juillet 1944. Mais il y en a eu un autre complot. C'est en 38. En 38, c'est l'affaire de... Enfin, c'est avant Munich. Et les responsables, ou la plupart des responsables de l'armée allemande, considèrent qu'une guerre contre la France et l'Angleterre serait à très haut risque.
Même dans son premier cercle, hein, je ne sais plus qui doutait, je ne sais plus si c'était Goebbels.
C'est Göring.
C'est
Göring, exactement. D'ailleurs, c'est la raison, puisqu'on parle de Munich, c'est la raison pour laquelle Göring a eu cette idée de réunir cette conférence. Bon, l'idée est venue Mussolini, mais il a tout de suite embrayé sur cette idée en pensant, et il a eu raison, que si on réussissait à amener les responsables des démocraties occidentales autour d'une table, ils fléchiraient. Et c'est ce qui s'est passé. Et derrière tout cela, il y avait l'idée que une guerre était très risquée. Et il aura la même réaction, d'ailleurs, en 1939. Non pas que la Pologne ait représenté à ses yeux un obstacle majeur, mais derrière la Pologne, il y avait la France et il y avait l'Angleterre. Mmh. Alors donc, pour revenir à 1938, ces officiers généraux sont décidés à renverser Hitler si celui-ci va jusqu'à une guerre avec la France et l'Angleterre. Et c'est la raison pour laquelle ils ont envoyé un émissaire à Londres pour dire aux responsables britanniques, c'est-à-dire en d'autres termes à Chamberlain et à son ministre des Affaires étrangères, tenez bon, tenez bon. Et puis finalement, comme on le sait, les responsables britanniques et français n'ont pas tenu bon. À partir de ce moment-là, renverser Hitler n'avait plus de sens.
Un petit mot quand même sur Rommel, parce que c'est un personnage, vous dites qu'il meurt finalement en homme libre.
Oui.
C'est un personnage qui fascine encore, parce que... et alors ce n'est pas le seul dans le livre, c'est-à-dire que, bien sûr, Hitler fascine, mais certains sont plus ou moins proches de lui et gardent une forme de distance et parfois même de critique à son égard. Et c'est ce qu'on perçoit à l'égard, avec Rommel.
Oui, il y a ces deux éléments. Il a été fasciné par Hitler. Et d'une certaine manière, il lui reste fidèle jusqu'à la presque fin. En même temps, il a son libre jugement. Et ce libre jugement, il se manifeste en Afrique, où il considère, à partir du moment où a lieu le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, que la partie est perdue en Afrique et qu'il faut donc rapatrier les troupes en Europe. Hitler ne veut pas en entendre parler. Évidemment, ça se termine par un fiasco total. Et ce sont plusieurs centaines de milliers de soldats qui sont faits prisonniers. Donc, Rommel avait raison. Il sera intéressant d'ailleurs de noter que Hitler, dans une conversation comme ça, au détour d'une conversation, lui dira « Vous aviez raison, mais ça n'ira pas plus loin ». Il n'en tirera aucune conséquence, puisqu'il restera toujours sur l'idée de tenir jusqu'au bout. Mmh. Voilà, bon, c'est son maître mot. Et puis, ça recommence, et de manière peut-être encore plus exemplaire, après le débarquement des Alliés en Normandie, où là, il considère que la partie est irrémédiablement perdue, et que donc, il faut traiter avec les alliés occidentaux pour reporter les forces sur le front de l'Est. Bon, c'est sans doute une analyse inexacte, parce qu'il ne tient pas en compte l'engagement qui a été passé entre Roosevelt, Churchill et Staline. Pas de paix séparée. Et évidemment, ce scénario est à l'encontre de ce refus d'une paix séparée. Mmh. Mais toujours est-il que, comme d'autres, évidemment, il fait ce raisonnement-là. Alors, ça pose la question, a-t-il participé au complot du 20 juillet ? Pour moi, il n'a pas participé. Mais il a été mis au courant. Et c'est là qu'est sa grande faute par rapport au régime, bien entendu, parce qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce que c'est la solidarité entre soldats, ceux qui l'avaient approché étaient des soldats qu'il connaissait, qu'il appréciait, donc il ne les a pas dénoncés. Il y en a un autre, d'ailleurs, qui est dans la même situation, mais qui, lui, passera entre les mailles du filet, c'est Guderian. Mmh. Guderian saura. Mais il ne dira rien, mais il ne sera pas inquiété. Bon, toujours est-il que ça aurait pu se passer, je peux dire, bien, sauf que l'un des officiers, qui était un des architectes de ce complot, von Stupnagel, qui commandait la garnison de Paris, a été, et ça a tout de suite été découvert, d'ailleurs c'était pas difficile, puisqu'il avait fait arrêter les SS à Paris, donc évidemment sa position était connue. Il est aussitôt rappelé à Berlin, il sait très bien ce que ça signifie, et il veut se suicider sur un champ de bataille en Champagne, où il a été soldat durant la Première Guerre mondiale. Il se rate, ça peut paraître surprenant, mais il se rate, et il est ramené à Berlin, il est soigné, et là, dans son délire, il cite le nom de Rommel. Et aussitôt, évidemment, la Gestapo se met au travail. Elle aboutit à la conclusion que, un, il a été informé, deux, il n'a rien dit, ce qui est considéré comme un crime. Mmh. À partir de là, comme c'est un héros, on va lui...
Rommel, hein.
On parle de Rommel, oui, oui. Pas de Stumpnagel. Bah, Stumpnagel était un héros à sa manière, mmh. Hein, mais je parle de Rommel. Donc, on va lui préparer une fin à la dimension de son statut de héros national. Sur le front de l'Ouest, il a été blessé. Donc, on expliquera qu'il est mort à la suite de ses blessures. En réalité, il n'est pas mort à la suite de ses blessures. Il s'est suicidé, sur ordre, évidemment.
Il n'avait pas le choix, en fait.
Il n'avait pas le choix, parce que...
C'était cela où il était condamné et sa famille tuée.
Absolument, absolument. Donc, il n'avait pas le choix. Il n'a pas voulu faire subir ce sort aux siens. Et donc, il s'est suicidé. Et après, les obsèques nationales lui ont été organisées.
Quel est, dans cette galerie, le personnage qui apparaît avec beaucoup de guillemets comme étant le plus pragmatique et le plus intelligent?
Alors,
On s'attendait, par exemple, bon, ayant personnellement travaillé sur la politique étrangère, entre les deux guerres, on cite toujours Ribbentrop, mais Ribbentrop n'était pas un grand personnage, n'était pas très intelligent.
C'était un personnage tout à fait fallot.
Voilà. Il y a d'autres fallots, sans S, mais quel est le personnage qui, selon vous, apparaît comme le plus pragmatique dans cette galerie?
Alors, c'est peut-être Speer. L'histoire de la relation entre Speer et Hitler est une relation très particulière, parce que au début de l'émission, vous parliez d'amitié.
Oui.
Là, on peut parler d'amitié entre les deux hommes. Speer, pour Hitler, était quelque sorte le fils qu'il n'avait pas eu. Ils avaient des goûts communs, c'était l'architecture. Hitler, dans une autre vie, se serait vu un grand architecte. Il rencontre Speer, qui lui est un architecte, et à qui il va confier toute une série de projets. Speer est tout de suite fasciné par Hitler. Il fait sa découverte lors d'un meeting à Berlin, auquel il a été entraîné par des étudiants. Il y va, et il est littéralement fasciné, mais au sens le plus fort du mot, parce qu'après l'avoir entendu, il lui faut plusieurs heures pour retrouver un état, si je peux dire, normal. Alors, les deux hommes ont de très nombreuses rencontres, et des rencontres qui ne portent pas obligatoirement sur des sujets politiques. Ils se promènent ensemble à Berchtesgaden, et donc ce fils spirituel, entre guillemets, d'Hitler, est aussi l'un de ceux qui vont le trahir, à la fin, sur la fin. Mais tout de même le trahir, parce que il va désobéir aux ordres. C'est le fameux Nérobefehl, l'ordre de Néron, la destruction de tout l'appareil de production allemand au fur et à mesure que l'armée se retire, et ça concerne notamment évidemment les infrastructures industrielles de la Ruhr, il faut les détruire pour que l'ennemi ne trouve rien, c'est-à-dire une politique de terre brûlée. Bon. Speer se place dans une autre perspective, parce que la perspective d'Hitler, c'est après moi le déluge, et peu m'importe, puisque l'Allemagne n'a pas été digne de moi, qu'elle meure, ou que le peuple allemand meure. Il le dit d'ailleurs. Speer a avec l'Allemagne une autre relation. Il pense à l'après. Il faut garder à l'Allemagne ses chances. Et cet appareil industriel, ça fait partie des atouts de l'Allemagne. Donc il désobéit. Alors là, on est au début de mars, 45 évidemment. Et là, dans la dernière scène, entre les deux hommes, il y a quelque chose d'assez saisissant. Il est parti, je veux dire Speer, il a quitté Berlin, comme beaucoup, après la célébration de l'anniversaire d'Hitler, le 20 avril. Ça pourrait être un adieu définitif. Non. Il revient à Berlin. Il revient à Berlin dans le bunker. Il doit dire à Hitler ce qu'il a fait.
Comme s'il ne souhaitait pas le trahir, finalement.
Oui.
Comme s'il souhaitait le regarder en face.
Oui, c'est ça. Ouais. Il veut ce dernier contact. C'est à haut risque, parce que Hitler aurait pu, il avait les moyens encore à ce moment-là, faire mettre contre un mur et l'exécuter. Ça, c'était parfaitement du domaine du possible, et Speer le savait. Il le lui dit, et il n'y a pas de réaction de la part d'Hitler, alors qu'au même moment, il a des réactions sur d'autres sujets qui sont des réactions de pleine folie, où il explose, il éructe. Là, il reste quoi ? Et ce sont deux regards échangés qui terminent cette relation entre Speer et Hitler.
C'est un homme, vous dites, hein, qui aura finalement deux vies, hein, c'est-à-dire jusqu'à cette forme de trahison. Il y a il y a plusieurs personnes comme ça qui ont ces deux vies. On a parlé de Von Papen qui a essayé de faire croire qu'il n'y était pour rien. Mais il y a aussi la seule femme, malheureusement, nous n'avons pas le temps de l'évoquer.
Leni Riefenstahl.
Voilà, Leni Riefenstahl, qui était la cinéaste d'Hitler, hein, un destin absolument fascinant. Et c'est de fait une personne qui a vécu très longtemps encore.
Parce qu'elle est morte centenaire, elle est morte il y a peu de temps. On avait l'impression qu'elle avait disparu. Eh bien non, elle n'avait pas disparu. Elle est restée pratiquement jusqu'à ses derniers jours une femme avec beaucoup de... On pourrait dire une belle femme, physiquement parlant. Malgré l'âge, elle avait beaucoup de présence. Alors, elle ne pouvait plus tourner en Allemagne. Alors, elle a beaucoup tourné en Afrique. Et on la voit, par exemple, alors qu'elle a peut-être 90 ans, elle fait de la plongée sous-marine. Enfin, c'est assez extraordinaire. Mais elle aussi, c'est une femme qui a été fascinée par Hitler. C'est exactement la même rencontre que pour Speer. Elle a entendu Hitler lors d'une réunion publique et elle est tombée.
Elle lui écrit.
Elle lui écrit, absolument.
« Je veux vous rencontrer. »
Voilà. Et la rencontre. Bon, comme, elle n'est pas encore metteur en scène, mais c'est une vedette de l'écran allemand. Donc, forcément, il la connaît et il est intéressé à la voir et peut-être ensuite à l'utiliser, ce qu'il fera.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul Blen.
C'est moi qui vous remercie.
Pour cette évocation. Donc, Les Hommes d'Hitler, un livre paru aux éditions Perrin. Merci, très chers auditeurs, et à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.